Vous écoutez Bac FM, tout de suite on retrouve mes invités direction Lisatte pour parler automobile. Bonjour Pierre, bonjour Quentin, bonjour Mathéo.
Bonjour.
Vous faites partie de Lisatte Formula Team. On va revenir sur plusieurs compétitions qui arrivent dans quelques temps maintenant. Une en France, une en Suisse, peut-être même ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu quelques réponses pour la même compétition qui a lieu dans d'autres pays. On verra ça ensemble. Avant, on va évoquer déjà ce qu'est Lisatte Formula Team pour bien comprendre parce que c'est une association.
Exactement.
Qui fait partie de Lisatte.
Exactement.
À l'image d'autres associations. C'est quoi déjà cette association Lisatte Formula Team?
Alors en quelques mots, en fait, Lisatte Formula Team, l'objectif c'est de participer aux compétitions Formula Student. C'est une compétition qui s'est développée dans la fin des années 1900, en fait. D'abord aux États-Unis, puis après en Allemagne. C'est la première fois que c'est passé en Europe. Et en fait, l'objectif c'est de confronter toutes les écoles, les universités mondiales lors de compétitions qui visent justement à concevoir puis fabriquer des monoplaces. Alors c'est pas équivalent de la Formule 1, mais voilà, c'est des petites monoplaces qui sont très performante, et puis c'est un gros challenge pour des étudiants comme nous. Donc voilà en quelques mots comment ça se passe. Et du coup, de notre côté, nous au sein de Lisatte, la première voiture elle a été faite en 2005. On a été la première équipe française à se lancer, et puis on a été aussi la première à se tourner vers la monoplace électrique en 2018.
Donc en fait, Lisatte Formula Team, c'est une équipe finalement qui se redonne, alors peut-être pas d'année en année, mais de promo en promo, du moins selon les générations qui viennent et qui ont envie ou non de participer à ces compétitions.
C'est ça. En fait, le fonctionnement, donc le projet, donc sur le papier, c'est quand même une association, mais on est quand même noté dessus et on a un suivi pédagogique. Donc en fait, ça fait partie de notre cursus de troisième année.
D'accord.
Et donc chaque année, l'équipe est renouvelée avec les élèves qui rentrent en troisième année.
C'est une bonne manière d'allier forcément l'apprentissage avec aussi le plaisir, parce qu'on va le voir, vous allez partir en Suisse. En France, c'est où d'ailleurs?
C'est à Lyon, c'est sur les locaux dans les locaux de Transpolis. En fait, ils ont un espace, voilà, un circuit adapté pour ce genre de compétition.
Donc c'est une manière d'allier l'apprentissage avec le plaisir aussi, et puis la compétition quand même. Vous êtes combien dans cette équipe en tout?
On est 23 membres de la promo, et avec nous on a 9 alternants aussi, donc ça fait une trentaine de personnes. C'est largement suffisant, on a besoin de tout ça, quoi.
Avec des rôles très bien répartis. Alors toi, Quentin, par exemple, qui parle depuis tout à l'heure, t'es le chef de projet. Et puis avec toi, Mathéo et Pierre, vous êtes tous les deux responsables communication. Et puis toi, Mathéo, tu as un autre rôle en plus, c'est les finances. Et les finances, on sait que c'est important.
Oui.
Et on va revenir dessus tout à l'heure, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, surtout quand on est qualifié pour aller en Suisse. Parce que là-bas, l'hébergement, c'est pas comme en France ou ailleurs. La Formula Student, donc c'est une compétition qui se répartit dans plusieurs pays, avec forcément un objectif. C'est de finir soit premier, soit deuxième, soit troisième, sur deux compétitions différentes, sur deux pôles différents, c'est ça? Si j'ai bien compris.
En quelques mots, les compétitions elles se passent sur 4 épreuves différentes. Alors, enfin, même sur 8 épreuves, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une première partie qui sont les épreuves statiques. Donc là, c'est vraiment la première étape, c'est d'être confronté au juge des compétitions et d'attester que notre voiture est réglementaire. En fait, pour expliquer, on a un règlement d'une centaine de pages environ.
D'accord.
Assez précis. Donc on doit tenir le cahier des charges pour pouvoir participer aux compétitions. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a des épreuves, on va dire, plus axées sur la gestion de projet, sur la gestion des finances, etc. Une épreuve sur le design où là, on juge en fait les choix technologiques qu'on a fait, la démarche d'ingénieur qu'on a réalisée tout au long de l'année. Et puis, une fois qu'on a réussi ces épreuves statiques, on participe aux épreuves dynamiques. Elles sont au nombre de 4, et donc on a l'accélération, on a un skid pad, en fait c'est un tracé en 8 qui permet un petit peu de juger la dynamique du véhicule, un autocross et une endurance de 22 km pour juger la fiabilité de la voiture aussi. Donc voilà, ça fait 8 épreuves au total.
Et est-ce que vous, avec votre voiture actuelle, vous axez essentiellement sur une capacité précise ou... Est-ce qu'on a une stratégie finalement quand on rentre dans une compétition comme celle-là?
Alors c'est vrai que c'est une stratégie comme ça, c'est on essaie de l'optimiser parce que pour performer, on va dire, il faudrait essayer d'être excellent sur une des épreuves. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas exactement parce qu'on attend de terminer la fabrication de la voiture pour savoir un petit peu comment elle se comporte. En fait, on a récupéré la conception et le début de fabrication de l'année dernière. Donc pour bien comprendre comment le véhicule se comporte, on attend de commencer les tests à partir de mai. Et à partir de ce moment-là, on va prendre une directive, savoir si on préfère s'axer sur l'accélération, et dans ce cas-là, ce sera des choix complètement différents, ou alors sur l'endurance et optimiser au maximum la fiabilité et la tenue dans le temps de la voiture. Donc ça, c'est des choses qu'on verra plus tard dans la saison.
Et pour l'instant, c'est un choix qui n'est pas encore fait. En revanche, il y a un choix qui a été fait déjà bien avant, c'est le fait de passer à l'électrique. Et si je me trompe pas, c'est la première voiture. Enfin, vous êtes la première école, du moins, à être passée à l'électrique.
C'est ça, en 2018. Ouais. C'est la direction à l'époque de l'école qui a poussé l'ensemble des projets. On est plusieurs projets au sein de l'école. Actuellement, on est 9. Et la direction à l'époque avait poussé l'ensemble des projets, comme je le disais, à passer à l'électrique, bien sûr, ce genre de projet, c'est l'occasion de pousser un petit peu l'innovation au sein des futurs ingénieurs que nous sommes. Ouais. Et on sait que les défis, on va dire, un petit peu actuels poussent les constructeurs automobiles à tourner vers l'électrique. Actuellement, c'est un petit peu le même schéma par rapport à l'hydrogène. Il y a beaucoup d'équipes, Formula Student notamment, qui se lancent dans l'hydrogène et les compétitions poussent de plus en plus à se tourner vers cette technologie. Donc voilà, certainement que dans des années futures, on va être poussé à développer cette technologie. Quoi.
Et de rester en parallèle, en lien aussi avec une consommation aussi grand public qui se fait à côté, en France et même ailleurs. Vous êtes qualifié, je le disais, en Suisse. En France, comment on fait pour se qualifier à la compétition qui a lieu après? En fait, c'est une présélection.
C'est ça. Alors en fait, c'est pas vraiment une sélection. C'est donc on a passé des quiz il y a un peu moins de 2 semaines, c'était le vendredi, je ne me rappelle plus exactement de la date, il y a 2 semaines. Le format, il est assez simple, en fait, ça correspond à Parcoursup, simplement. Toutes les équipes sont confrontées sur des quiz qui sont propres à chaque compétition. Donc, on passe un quiz pour la compétition allemande, française, République tchèque, tous les pays qui accueillent les compétitions en Europe, en fait. Et en fonction du résultat qu'on obtient, on est classé, ça met en place des listes d'attente, les équipes se désistent, s'inscrivent, etc. Et donc, ça permet un petit peu de rebattre les cartes. Nous, on était donc qualifié d'office en compétition française puisqu'il privilégie à chaque fois les équipes nationales.
D'accord.
Et puis après, grâce au fonctionnement justement de liste d'attente, on a pu être accepté en Suisse, qu'on a accepté. On avait aussi l'opportunité de partir au Portugal ou en Grèce, mais pour des questions financières, bien sûr, on ne peut pas accepter tout. Donc on a fait un choix.
Vous attendez d'autres réponses encore?
En soi, on est toujours sur des listes d'attente comme la République tchèque, par exemple, mais même si on est accepté, on sait qu'on refusera puisqu'on est déjà inscrit dans les deux compétitions suisse et française. Donc les dés sont lancés, on va dire.
Maintenant, il faut l'argent. J'aimerais juste quand même qu'on revienne, avant d'aller sur le financement, sur un objectif que vous avez affiché, que vous assumez. C'est un objectif sur 3 ans. Cet objectif, c'est une victoire dans une épreuve dynamique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus et comment justement on construit cet objectif sur 3 ans?
Alors justement, on a fait le choix en fait de mettre en place un cahier des charges sur le long terme. Ça a été longuement discuté avec les dirigeants au sein de l'école et les profs qui sont en charge des projets justement. Et on va essayer d'instaurer une philosophie où l'objectif, c'est pas de repartir de zéro de chaque année à chaque année, mais en fait de pérenniser le projet et de fixer des objectifs à long terme pour savoir exactement dans quelle direction on va, prendre des choix qui sont parfois forts, mais voilà, on sait que dans 3 ans, l'idéal, ce serait de pouvoir au moins réaliser une victoire sur une des épreuves dynamiques. Tout d'abord pour la notoriété, bien entendu, parce qu'on sait que ça pourrait apporter de la visibilité énorme de
à l'école.
Exactement. Et puis aussi faire un choix, donc on en parlait tout à l'heure, justement, de savoir dans quelle philosophie on se place par rapport aux épreuves dynamiques. On sait qu'on ne peut pas être performant sur les 4 épreuves, donc l'objectif, c'est vraiment de... Alors je prends l'exemple tout bête, mais imaginons on se focalise sur l'accélération. Dans ce cas-là, on visera la voiture la plus légère possible d'ici 3 ans, avec les caractéristiques qui permettent de viser une victoire dans cette catégorie. Et dans ce cas-là, ça pourrait apporter justement de la visibilité et par conséquent du financement.
Et c'est une manière aussi de donner un objectif aux autres promos qui vont suivre derrière vous, c'est de ça, leur donner une visu.
C'est ça, il y a la passation qui est un petit peu privilégiée, c'est toujours compliqué cette épreuve parce que nous en quatrième année on commence l'année en stage, donc pour la prochaine équipe qui récupère le projet c'est toujours compliqué de faire une bonne passation, ça se fait pendant l'été, donc c'est pas idéal. Dans le cas où on se fixe des objectifs à long terme, justement on sait exactement sur quoi on s'oriente et les prochaines équipes savent ce qu'ils ont exactement à faire.
Pour ça, en revanche, il faut l'argent.
Exactement.
Le nerf de la guerre. Pour ça, il faut donc vous soutenir. Vous avez déjà des soutiens. Alors, il y a des soutiens institutionnels, il y a des soutiens privés, il y a des soutiens moraux aussi, entre guillemets. On pourrait appeler ça des soutiens tête d'affiche. Je pense à un journaliste, je pense aussi à un animateur, celui de Top Gear France. Comment ces soutiens, vous allez les chercher? Est-ce qu'il y en a aussi qui viennent à vous? Et qu'est-ce que vous leur proposez aussi, selon la hauteur de leur soutien?
Alors, donc ça c'est notre boulot avec Pierre et moi. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a un dossier partenariat et notre objectif en fait, ça va être de contacter les entreprises, que ce soit par mail, par téléphone ou quoi. Et on va tout simplement leur faire une présentation du projet qui va être simple. Et s'ils vont être intéressés, on va continuer dans l'échange et dans le but d'avoir un soutien financier ou technique. Ça peut être les deux. Mais quelque chose qui était vraiment difficile avant ces derniers temps, c'était qu'on n'était pas défiscalisable. Mais récemment, on a trouvé une solution, donc maintenant ce n'est plus le cas. Enfin, c'est le cas, pardon, on est défiscalisable. Donc ça va vraiment être une grosse avancée et ça va pouvoir nous apporter plus de financement. Donc,
ça va permettre un soulagement aux personnes qui vont vous apporter leur soutien, ouais, bien sûr.
Donnant-donnant des deux côtés en fait. Ils vont gagner aussi quelque chose à nous financer et c'est quelque chose qui va débloquer les financements, j'espère.
Alors, il y a plusieurs manières de vous soutenir selon les sommes qu'on veut donner. Qu'est-ce que vous proposez justement? J'ai vu qu'il y avait bien sûr de la communication sur les réseaux sociaux, mais pas que, il y a aussi la possibilité d'avoir de la communication sur la voiture en question.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a une sorte de tableau en fait avec des répartitions de tranches de prix. Et en fonction du financement qui va être proposé, on a donc des grades. Et en fait, ces grades vont offrir des communications sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va pouvoir mettre de la communication au niveau de stickers sur la livrée de la voiture. Pour un peu plus, on va également pouvoir inviter les gens à des événements qu'on fait, comme par exemple le samedi 15 février pour la journée presse. On invite nos partenaires et c'est un plus pour eux en termes de visibilité et on essaye de faire au mieux pour que eux soient aussi contents de leur partenariat à nos côtés.
Ouais, ça permet aussi vous de montrer encore plus concrètement finalement ce que vous faites et à quoi eux ils participent par un financement.
Voilà, du coup, c'est pour ça aussi qu'on passe par des grades, parce qu'en fait, on se rend compte, étant donné qu'on est un projet étudiant, on n'a pas les fonds pour aider tout le monde. Ouais. Donc en fait, on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde, mais derrière, c'est difficile aussi de les aider en retour. Donc c'est pour ça que les grades nous aident énormément à dire, à hauteur de cette aide-là, nous, on peut aussi vous aider à cette hauteur-là.
Ouais.
Et c'est vraiment important pour nous, dans le sens, comme a dit Mathéo, le donnant-donnant, c'est hyper important, parce que si on veut, comme a dit Quentin, aider le projet en fait sur le long terme, on a besoin d'avoir des partenaires qui nous soutiennent sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a créé ce système de grades, parce que ça aide vraiment à soutenir les entreprises.
Ouais, ces grades qui commencent par le bronze et qui se terminent par le platine.
Exactement.
C'est ça. Le platine, c'est vraiment le full access.
Oui.
C'est vraiment le plus. Mais derrière, il y a quelque chose d'intéressant, livrer de la voiture aux couleurs de l'entreprise.
Exactement.
C'est-à-dire?
Alors du coup, sur la monoplace, donc en fait, on a beaucoup de stickers en fonction des grades du coup que les entreprises ont pris. Mais c'est vrai que sur la monoplace, tout ne peut pas être recouvert de stickers. Et du coup, on est obligé, pareil, en fait, de sélectionner les entreprises par le biais de ces grades. Et c'est vrai qu'en fait, une aide énorme au niveau de l'argent, tout de suite, ça peut nous débloquer en fait, au niveau des stickers. Et c'est pour ça qu'on propose ce service-là de recouvrir entièrement la monoplace pour vraiment représenter l'entreprise et l'aider au mieux.
Vous avez déjà des entreprises qui vous ont aidé à hauteur du platine ?
Oui, alors l'un des plus gros dons justement dans l'histoire, c'était en 2018. On a reçu une aide à hauteur de 40 000 euros justement de la part de Faurecia, actuellement Forvia.
Ça détend.
Exactement, c'est une super aide. On va dire qu'on ça nous enlève une petite épine du pied.
Ouais.
Et à l'époque justement, ça nous a permis donc pour l'équipe qui était en place à l'époque de se tourner vers l'électrique justement et puis d'assurer on va dire une stabilité financière pour les 2-3 saisons qui ont suivi quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà.
là, pour pouvoir participer à cette compétition en Suisse, également en France, mais j'imagine que le coût en France est quand même beaucoup moindre par rapport à la Suisse, combien il vous faut ?
Donc on a chiffré un petit peu les besoins il y a un peu plus d'une semaine quand on a eu les résultats justement. Aujourd'hui on estime qu'on a besoin de 13 000 euros. Si on prend en compte les frais logistiques, ouais, les frais de restauration, les frais de camping, comme ils appellent ça justement dans les inscriptions, pour pouvoir participer aisément aux deux compétitions.
Ouais, ouais.
On a la chance en Suisse, on pensait pas, mais finalement les frais d'inscription sont pas si chers que ça non plus, ils sont équivalents à ceux de la France à hauteur de 2300 euros.
Ouais, bien sûr. Ouais.
D'un point de vue géographique aussi, de Nevers, on n'est pas loin de la Suisse, on est uniquement à 6 heures. Quand on compare par exemple à la compétition portugaise, on était à environ 12 heures du lieu de la compétition, donc c'est pas, au final, d'un point de vue financier, on optimise un petit peu les coûts en ayant choisi ces deux compétitions, mais ça représente quand même une grosse somme d'argent et on a besoin d'entreprises, des institutions pour nous soutenir et réaliser un petit peu le projet sur lequel on travaille depuis le début d'année, quoi.
Deux entreprises qui participent à hauteur platine et puis en avant la musique, quoi.
Exactement.
Et là, parce que c'est 8000 euros hein, l'investissement pour avoir le full access platine.
Exactement.
Avec des petits foires à la journée presse également.
Exactement.
j'imagine.
Ah, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement finalement pour la suite de cette aventure? Les dates d'ailleurs, c'est quand en Suisse?
C'est du 11 au 16 juillet.
En Suisse et en France?
France, c'est la dernière d'août, du 26 au 31.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour ces deux compétitions? Est-ce que vous avez un objectif quand même?
Ouais, bien sûr. Alors après, on se fixe pas des objectifs outre mesure aussi. On essaye de rester dans quelque chose de rationnel. Ça fait 3 ans que l'équipe a pas sorti de voiture roulante. La dernière, c'était en 2020. Aujourd'hui, même si on est la plus ancienne équipe française sur le papier, on se considère comme une nouvelle équipe. On sait que notre voiture, forcément, elle n'est pas la plus performante parce que voilà, il nous manque l'expérience de ces 3 dernières années. Réussir à présenter une voiture conforme aux deux compétitions et participer déjà aux quatre épreuves dynamiques, ouais, lors des deux compétitions sera déjà une super réussite pour nous. Ça veut dire qu'on a fait une voiture fiable, qu'on comprend comment fonctionne la voiture, qu'on aura eu le temps de la tester, et c'est déjà une victoire pour nous.
C'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres étudiants dans d'autres écoles, avec des dispositifs différents, des manières peut-être d'apprendre différentes
bien
aussi.
Bien sûr, bien sûr. Comme on en parlait tout à l'heure, justement, ce samedi prochain, il y a la journée presse qui va se tenir à Magny-Cours. Ça va être l'occasion de se rencontrer avec les 15 équipes françaises,
ouais,
de voir les véhicules qu'eux présentent, voir où ils en sont en termes d'avancée, et puis surtout se rencontrer voilà, entre nous, parce que même si c'est une compétition, on va dire, de haut niveau en quelque sorte, parce qu'il y a des équipes qui sont très avancées technologiquement parlant, l'objectif premier, c'est de s'entraider entre nous.
Ouais, bien sûr.
Tout à l'heure, Mathéo parlait justement du fait de pouvoir être défiscalisé. C'est grâce à l'équipe de Metz qu'on a pu voilà, savoir comment cela fonctionnait, comment eux avaient mis en place ce système de fondation. Nous, on a pu recopier ça et c'est grâce à eux. Donc, il y a vraiment une entraide et samedi prochain, ça va être un petit peu l'occasion de pouvoir se rencontrer tous ensemble. On attend beaucoup de personnes à cet événement, donc ça va être super.
Et ce sera un premier départ aussi pour cette aventure, une mise en bouche du moins de ce qu'on pourra découvrir. Est-ce qu'on pourra suivre aussi l'avancée de ce projet sur les réseaux sociaux? J'imagine que vous mettez régulièrement à jour avec des photos, avec des explications, des vidéos aussi.
Exactement, ouais. Peut-être que Mathéo ou Pierre peuvent en parler mieux que moi par rapport à ça.
Ouais, bah, du coup, sur les réseaux, on essaye de montrer un peu et de retracer au maximum les avancées de tous les pôles, donc ils sont au nombre de 4. Voilà, dès qu'il y a une avancée assez importante, on essaye vraiment de poster pour montrer, que ce soit à nos partenaires ou tout simplement aux gens qui nous suivent, de montrer où on en est et d'avoir un suivi clair sur ce qu'on fait.
Et ça se passe sur Instagram, Facebook, Isat Formula Team, et
c'est
sur ça. YouTube aussi, une chaîne YouTube d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Oui,
et aussi, on a un réseau LinkedIn aussi qu'on alimente de la même manière que les autres.
Où on peut vous retrouver, Isat Formula Team. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. On se donne rendez-vous demain. Très belle après-midi.